الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous avions parlé dans un cours précédent de l'expédition d'Avrajir qui s'est soldée par la mort de plusieurs compagnons suite à une trahison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut très peiné de la mort de ses grands compagnons. Dans le même temps, il y eut l'expédition de Bir Ma'ouna. Au cours du même mois où le messager sallallahu alayhi wa sallam envoie l'expédition d'Avrajir, il envoya également l'expédition de Bir Ma'ouna. Il est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya vers le Najd 70 hommes parmi les meilleurs compagnons, connus pour leur grande dévotion et leur attachement à la récitation du Coran. Ils coupaient du bois durant la journée et accomplissaient la prière durant la nuit et dépenser le fruit de leur travail pour les gens de la Soufa. Je vous renvoie au cours numéro 60 pour savoir qui sont les gens de Soufa. Muslim rapporte que la raison de leur envoi fut que des hommes vinrent trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui demandèrent d'envoyer avec eux des hommes qui leur enseigneraient le Coran et la Sunna. Plus ou moins dans le même objectif que ceux qui étaient venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour l'expédition de Rajia. L'imam al-Bukhari mentionne une autre raison qui dans le fond ne diffère pas de la précédente. Des hommes appartenant aux tribus de Ri'al, Dhakwan, Usayya et Banu Lihyan demandèrent l'aide du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contre leurs ennemis. Il leur envoya alors ses 70 hommes. L'imam al-Bukhari, de ce fait, est d'accord avec ce qu'a rapporté Ibn Sa'd concernant cette explication, à savoir que la raison de l'envoi de ces 70 hommes était un soutien contre leurs ennemis. Certains spécialistes des récits de la vie du prophète A.S.W. et des marazis, des expéditions militaires, ont également mentionné que Abu Bara Amir ibn Malik, surnommé Mula'ib al-Asinna, le joueur de lance, fut à l'origine de cette mission. Lorsque Abu Bara Amir ibn Malik vint auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci l'invita à embrasser l'islam, mais il ne se convertit pas. Il ne manifesta toutefois aucune hostilité et dit d'ailleurs au messager d'Allah, si tu envoyais certains de tes compagnons vers les habitants du Najd, afin de les appeler à ta religion, j'espère qu'ils répondraient favorablement. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit alors, je crains pour eux les habitants du Najd, c'est-à-dire je crains une trahison des habitants du Najd. Abu Bara dit alors, je leur garantis protection. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya alors 70 hommes parmi les meilleurs de ses compagnons. On les appelait Al-Qura, les récitateurs du Coran. Ils se dirigèrent donc vers Bir Ma'ouna, un lieu situé entre le territoire des Bani Amir et celui des Bani Sulaym. Arrivés là-bas, ils envoyèrent un des leurs, Haram ibn Milhan, radiallahu anhu, l'oncle maternel de Anas ibn Malik. Ils l'envoyèrent donc porter une lettre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au chef des Bani Amir, Amir ibn Tufayl. Mais celui-ci ne regarda même pas la lettre. Il fit même un signe à l'un de ses hommes qui frappa alors Hiram ibn Milhan d'un coup de lance dans le dos et la pointe de la lance traversa son corps. Trahison. Lorsque le sang jaillit, il prit du sang de la plaie et s'en aspergea le visage et la tête en disant « Par le Seigneur de la Kaaba, j'ai réussi ». Cette narration, vous pouvez la trouver dans le Sahih de l'imam al-Bukhari sous le numéro 4092. Ensuite, Amir ibn Tufayl incita les Bani Amir à combattre les musulmans. Ces derniers refusèrent en regard de la protection que Abu Bara Amir ibn Malik avait accordée à ses 70 hommes. Ils s'étaient portés garants de leur protection. Les Bani Amir n'obéirent pas à leur chef, Amir ibn Tufayl, mais plutôt ils respectèrent l'engagement qui était que ces 70 hommes étaient sous la protection de Abi Bara Amir ibn Malik. Amir ibn Tufayl se tourna donc vers les tribus avoisinantes des Bani Sulaym, notamment Ri'al, Dhaqwan et Usayya. Il les incita à attaquer ses compagnons. Et eux répondirent à sa demande, encerclèrent les musulmans et les combattirent jusqu'à les tuer tous, sauf deux hommes, Ka'b ibn Zayd al-Najjar, qui fut laissé vivant agonisant, et cet homme-là vécut ou vivra jusqu'à la bataille des coalisés où il y mourra en martyr, et Amr ibn Umayya al-Damri. Amr ibn Umayya al-Damri était avec un autre compagnon, al-Mundir Uqba ibn Amir. Tous deux étaient restés en retrait pour garder les montures. Mais lorsqu'ils aperçurent les oiseaux tournoyer au-dessus du lieu des combats, ils comprirent que leur compagnon avait été tué. Ils se précipitèrent dans la bataille jusqu'à ce qu'Al-Mundir Uqba ibn Amir fût tué. Quant à Amr ibn Umayya al-Damri, il fut capturé. Puis Amr ibn Tufayl le libéra, affirmant que sa mère avait fait vœu d'affranchir un esclave. Il l'affranchit donc en accomplissement de ce vœu. En chemin vers Médine, Amr ibn Umayya rencontra deux hommes de la tribu des Bani Kileb. Amr ibn Umayya les tua tous les deux, pensant venger ses compagnons. Mais il ne savait pas que ces deux hommes étaient en réalité sous la protection du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il arriva à Médine, il en informa le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il relata les faits, que tous les compagnons avaient été tués, et aussi il relata le fait qu'il avait tué deux hommes des Bani Kilab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit alors la responsabilité d'acquitter le prix du sang pour ces deux hommes, puisqu'ils étaient sous sa protection. Il sollicita alors la contribution des musulmans, ainsi que celle des juifs de Médine liés aux musulmans par un pacte. Rappelez-vous le pacte dont nous avons parlé dans le cours 62. Je vous renvoie à ce cours pour plus de détails. Les juifs étaient contraints de payer le prix du sang si cela était nécessaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux juifs de Médine leur contribution pour payer le prix du sang de ces deux hommes. Seulement, un des clans des juifs, qui sont les Banu Nadir, refusèrent de participer au paiement du prix du sang pour ces deux hommes de Kilab et profitèrent même de cette circonstance pour tenter d'assassiner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut la cause pour laquelle le messager sallallahu alayhi wa sallam montera une expédition contre eux, dont nous reparlerons dans le cours prochain. La tragédie de Bir Ma'ouna fut très pénible pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il resta profondément affligé par la mort de ses compagnons au cours de ces deux expéditions, Rajir et Bir Ma'ouna. Et pendant un mois entier, il invoqua Allah, subhanahu wa ta'ala, lors de la prière du Fajr contre les tribus qui les avaient trahis. Ri'al, Dhaqwan, Usayya et Banu Lihyan. Un mois de kunut où le prophète invoquait contre eux. Autre fait marquant durant cette expédition, et c'est un signe remarquable apparu à propos de Amir ibn Fuhayra lors de cet événement. Amir ibn Fuhayra, comme je vous le rappelle, Et c'est lui qui eut l'honneur d'accompagner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abi Bakr durant l'émigration. Amir ibn Fuhayra était l'affranchi d'Abi Bakr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé avec ceux qui devaient porter secours à ses tribus, ou alors selon la version de Muslim, leur enseigner l'islam. L'imam al-Bukhari rapporte que lorsque les compagnons de Bir Ma'ouna furent tués et que Amr al-Dhamri fut capturé, Amr ibn Tufayl demanda « Qui est cet homme ?» On lui répondit « C'est Amr ibn Fuhayr, qui était mort sur le champ de bataille. » Il dit alors « Après qu'il eut été tué, je l'ai vu élevé vers le ciel, jusqu'à ce que je regarde entre lui et la terre, puis il fut déposé. » Karama, c'est un miracle concernant cet homme. Cette narration a été rapportée par l'imam al-Bukhari sous le numéro 4093. Radiallahu anhum ajma'in. D'ailleurs, celui qui l'avait tué était Jabbar ibn Salma al-Kilabi. Ce dernier embrassa ensuite l'islam après avoir été témoin de ce qui était arrivé à Amir ibn Fuhayra, radiallahu anhum. Comme l'a rapporté le Waqidi et Ibn Sa'd dans ses Tabaqat. Quelles sont les règles et les jugements et les enseignements à tirer de ces deux expéditions, de Radir et de Bir Ma'ouna? Premièrement, ces deux événements montrent que tous les musulmans partagent la responsabilité de la prédication de l'islam, consistant à éclairer les gens sur sa vérité et ses prescriptions. La mission de la prédication n'est donc pas réservée uniquement aux prophètes et aux messagers, ni même à leurs successeurs ou aux savants seuls. Malgré la crainte qu'éprouvait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour les récitateurs al-Qur'an, à la suite de ce qui était arrivé aux compagnons d'Ar-Rajir, il ne cessa pourtant pas d'envoyer des prédicateurs, et continua à en envoyer d'autres jusqu'à sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Il estimait en effet que l'accomplissement de la mission de transmettre l'appel à l'islam était plus importante que toute autre chose. Afin que se réalise ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dans l'accomplissement de son ordre et la diffusion de son message. Deuxièmement, le miracle de l'éducation de l'islam, l'éducation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons, apparaît clairement dans l'attitude de Khubayb ibn Adi lorsqu'il fut capturé. Il ne fit aucun mal à l'enfant qu'il avait entre les mains. Bien qu'il eût la possibilité de se venger des associâtres qui l'avaient emprisonné pour le tuer. Par contraste, la bassesse des mécréants apparaît dans leur trahison envers les compagnons dans les deux expéditions d'Agradjia et de Bir Ma'ouna. La noble attitude de Khubayb envers l'enfant d'Al-Harith ne suffit pourtant pas à susciter leur reconnaissance. La trahison et la perfidie sont malheureusement dans bien des cas des traits caractéristiques des gens de la mécréance et de l'associatrie. Troisièmement, le prisonnier tombé entre les mains de l'ennemi peut refuser la garantie de sécurité qui lui est proposée, comme le fit Asim ibn Thabit, radiallahu tabaraka wa ta'ala, sans pour autant se livrer volontairement jusqu'à la mort. Il lui est également permis d'accepter cette protection afin de guetter une occasion favorable pour s'évader, à l'exemple de Khubayb et de Zayd ibn Dathina, dont nous avons parlé dans le cours précédent. Quatrièmement, ce qui apparut comme un événement extraordinaire concernant Khubayb lorsqu'il était prisonnier, montre que tout ce qui peut constituer un miracle pour un prophète peut également apparaître comme une karama pour un croyant. Cinquièmement, la légitimité de la prière au moment de l'exécution. Khubayb radiallahu anhu fut le premier à instituer cette pratique et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'approuva. Sixièmement, la force de la foi de Zayd ibn Dathina se manifeste dans son amour pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dans son acceptation de la mort. Il ne supportait pas que le messager sallallahu alayhi wa sallam puisse être touché par la moindre blessure alors que lui serait en sécurité parmi les siens. Tel était aussi l'amour des compagnons pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cet amour est pour eux un devoir. Il est également un devoir pour tout croyant et toute croyante, car il constitue l'une des preuves de la foi du serviteur. Septièmement, Les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comptent parmi les créatures les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est précisément pour cette raison qu'ils furent soumis à l'épreuve. Et enfin, huitièmement, la légitimité du kunut dans la prière, consistant à invoquer contre les injustes, est établie. Cela afin de solliciter d'Allah subhanahu wa ta'ala la levée des épreuves qui frappent les croyants. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardahu kama nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.